pour débuter cette première table ronde autour du projet Prendre la parole. Pour le coup, pour introduire, on va juste vous dire que l'objectif du numérique en commun, c'est notamment d'offrir un espace pour discuter des sujets importants du numérique, des sujets d'actualité, pour faire découvrir des acteurs et des expérimentations qui sont inspirantes. C'est ce qu'on se dit, et c'est aussi notre enjeu avec les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, c'est de valoriser ce qui se fait sur nos territoires. Parce que des actions inspirantes, il n'y en a pas que ailleurs. Voilà. Cette année, effectivement, nous, on s'est dit, on peut difficilement passer à côté du thème de l'IA, c'était un peu sujet imposé, j'ai l'impression. Et ça nous a paru immédiatement très logique de traiter aussi la question de l'accessibilité, de l'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap au regard des 20 ans de la loi de 2005. Voilà. Et il se trouve que, avec Clem, qui est... Et j'ai dit Clem en plus, j'ai pas dit Clémentine, j'ai pas dit Clémence. En l'occurrence, on était au fait que l'établi avait travaillé sur ce projet Prendre la parole. Alors moi, je ne vais pas vous le présenter, c'est eux qui vont vous le présenter, mais juste dire, nous, ça nous paraissait très pertinent de le retenir pour ouvrir cet espace, parce que justement, ce projet, c'est un projet qui va lier des structures qui sont et dans les Pyrénées-Atlantiques, l'école d'ingénieurs Lestia, et des structures qui sont dans les Landes, à Souston, donc du coup le foyer de vie, être et devenir, je suis désolé, je le fais à chaque fois, vivre et devenir, et le Fab Lab l'établit. C'est un projet qui va mobiliser l'intelligence artificielle de manière positive pour intervenir justement, pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Donc vraiment, ça aurait été très dommage de ne pas saisir cette belle occasion d'illustrer comment les synergies sur un territoire peuvent produire une action très positive. Pour le coup, donc autour de moi, je suis entouré de Émilie Grand-Girard. Alors du coup, donc, je vais chercher, je vais demander peut-être à un de mes collègues de bien vouloir trouver des piles pour le second micro, parce qu'il y en a plein. Mais oui, il ne marche plus. Et je vais faire tourner du coup. Mais alors sinon, vous allez vous présenter vous-même, c'est plus simple.
Donc, Émilie Grand-Gérard, je travaille à l'ESTIA, qui est une école d'ingénieurs qui se situe à Bidart, donc dans le Pays Basque, avec mon collègue Sébastien Isset. On est ergonome, donc plutôt tourné facteur humain. Et voilà, on travaille au sein de la plateforme ESTIA Tech, qui est là pour valoriser la recherche au sein de l'école d'ingénierie. Et donc, on travaille sur des projets financés qui ont pour valeur de favoriser le transfert technologique et de la recherche des enseignants-chercheurs auprès des entreprises et au-delà de ça, des associations et de tous les partenaires qu'on peut avoir dans le pays.
Je gère un tiers-lieu, un Fab Lab à Souston, qui s'appelle l'établi.
Bonjour, Cédric Ponce, je suis chef de service donc, dans un établissement qui accueille du polyhandicap moteur, donc foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé et SAVS. SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale. En fait, c'est différents services, hors les murs, des dispositifs plus ou moins légers, hors institution. Voilà. Donc, on parle d'inclusion, on essaie de balayer et de diversifier l'offre d'accueil et l'offre de prestation.
Merci. Du coup, Clem, puisque tu as le micro, je vais te le laisser. Donc, l'idée, c'est que vous allez nous raconter l'histoire de ce projet Prendre la parole. Et du coup, je te propose de commencer avec le début de l'histoire, notamment le début de l'histoire entre le foyer de vie et l'établi, voisin à Souston.
En effet, donc nous, on est sur la même commune que les foyers et le service d'accompagnement à la vie sociale que gère le groupe Vivre et Devenir. Mais on ne se parlait pas vraiment. Les makers viennent dans les Fab Labs, les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants sont dans les foyers. Et il n'y avait pas de trait d'union, quand bien même on est dans la même commune. commune d'environ 8000 habitants. Le point de départ de tous les projets qui s'en sont suivis, je dis tous les projets parce que prendre la parole n'en est qu'un parmi d'autres, le point de départ, ça a été, tristement, j'allais dire, le Covid, puisque au moment du Covid, il y a eu un besoin d'agilité, de réactivité très forte que la grande industrie n'était pas capable, à laquelle la grande industrie n'était pas capable de répondre, et donc l'écosystème des Fab Labs, dont fait partie l'établi, ont usiné nuit et jour des équipements de protection individuelle dans une logique de fabrication distribuée avec nos découpeuses laser, imprimantes 3D et autres. On a fabriqué tout un tas d'équipements comme des visières de protection qui ont permis d'équiper tous les offreurs de soins et médico-sociaux du territoire. Et donc on a équipé les professionnels des foyers pour personnes en situation de handicap moteur, de l'EHPAD, et après, au fur et à mesure, ça a réouvert les restaurants de la côte, etc. Passé le tsunami, on va dire, du Covid, on s'est dit, mais en fait, c'est hyper cool, on aurait des tonnes de choses à faire ensemble, autre que gérer la crise. Nous, on a ces machines, on a ces savoir-faire. Eux, ils ont cette expérience d'usage, ces besoins. Et donc on s'est posé avec les professionnels et les résidents et en une heure de temps, je crois qu'il y avait 25 projets d'innovation qui étaient sortis, posés sur la table. Et l'idée, ça a été de se dire, il y a deux types de projets. Il y a des projets d'innovation à l'échelle très individuelle, c'est le sujet du handicap, c'est comment je peux adapter en fonction de mon profil de handicap qui est unique pour développer mes habiletés et mon autonomie. Donc beaucoup de fabrication de ce qu'on appelle des aides techniques personnalisées pour redonner plus d'amplitude, de mouvement et autres. Et on s'est dit que ce serait cool quand même de trouver un projet qui soit transversal, c'est-à-dire pas faire juste une collection de projets individuels. Et la thématique transversale qui est ressortie, c'est celle de la communication. Que les personnes, tu me coupes hein, parce que moi j'adore parler, hein. les personnes en situation de handicap moteur ont pour beaucoup des difficultés de locution et ne sont pas comprises de tout le monde. Ceux qui les côtoient au quotidien les comprennent, mais le résultat c'est qu'ils ont beau avoir des fauteuils roulants électriques qui sont des 4x4 quasiment qui leur permettent d'aller partout, ils restent toujours au foyer et toujours avec les mêmes personnes parce qu'aller ailleurs pour ne pas pouvoir interagir et ne pas pouvoir se faire comprendre, ben en fait c'est dramatique. Et donc peut-être juste pour donner un chiffre, je sens la pression donc je conclue, pour donner un chiffre pour illustrer vraiment la problématique dont il s'agit, il faut savoir que, deux chiffres je vais donner, il y a 900 000 personnes en France qui ont des difficultés à parler du fait de leur handicap. Et selon une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé, quand on est privé de la parole ou empêché de la parole, on a deux fois plus de risques de développer des troubles dépressifs. Donc c'est pas juste parler, c'est une forme d'enfermement. Et donc on s'est dit, la communication c'est un sujet transverse. Et on a probablement une innovation locale à partir d'un besoin identifié sur notre territoire, notre commune, ensemble. D'abord, on était tous les deux, les foyers et le Fab Lab, quelque chose à construire.
Merci. Du coup, si on rentre un peu dans le détail, tu nous as parlé effectivement du frein à la communication. Concrètement, comment ça se traduit aujourd'hui, enfin, avant le projet justement, comment ça se passe aussi pour compenser ces freins qui peuvent être rencontrés avec la communication, Cédric ?
Oui, donc nous accueillons des personnes polyhandicapées qui ont également des troubles associés, ce qui peuvent être de différentes natures, dont les troubles de la communication. En fait, voilà. Donc certaines de nos personnes accompagnées ne communiquent que par clignement d'œil, son, geste. Voilà. On parle beaucoup actuellement dans les politiques sociales et médico-sociales d'autodétermination, de pouvoir d'agir, d'inclusion. Pour moi, la communication, c'est, si elle n'est pas traitée et comprise par le commun des mortels, c'est vraiment un frein à l'inclusion et comme l'a dit Clémence, ça va renforcer l'isolement social. Et puis, tout citoyen, on a parlé de la loi de 2005, tout citoyen doit avoir accès à des dispositifs de droit commun, doit être compris par le commerçant, par le boulanger. Donc voilà, on parle beaucoup d'ouverture des établissements à l'environnement et sur l'environnement. Donc, c'est-à-dire que nous, par exemple, on accueille des partenaires extérieurs dans l'établissement pour leur faire connaître leurs difficultés au quotidien. Mais on va aussi participer à des manifestations à l'extérieur pour aller se montrer, pour aller faire du lien, pour aller créer de la mixité. Voilà, c'est à peu près tout. C'est un petit peu le fond du sujet qui nous a permis de le mettre là actuellement.
Alors, du coup, là, aujourd'hui, des outils de compensation, il en existait déjà pour essayer de favoriser le langage. Alors, je ne sais pas qui répondra, si c'est les ergonomes ou la femme manageuse, mais donc du coup, aujourd'hui, avant le projet, comment ça fonctionne justement, ces outils de compensation pour la communication, c'est quoi leur modèle et comment ils sont construits pour qu'après on puisse comprendre en quoi le projet est novateur, enfin, amène quelque chose de différent. Qui prend cette charge?
Donc en fait, nous, avant de démarrer, donc on a trouvé ce problème et on s'est dit... qu'est-ce qui existe? Quelles sont les pratiques? Comment ça marche? Les professionnels de l'accompagnement qui travaillent au foyer utilisent des techniques palliatives. Ils utilisent des pictos, des images qui correspondent peut-être aux habitudes de la personne qu'elle va pouvoir désigner du doigt ou autre pour faciliter la communication. Aujourd'hui, il y a tout un champ qui s'appelle les CAA, donc la communication alternative et adaptée et augmentée. Merci, une fois sur deux, je l'ai adaptée. Et augmentée, donc qui développe des outils d'aide à la communication. On a commencé, nous, par faire un état des lieux. Grosso modo, il y a deux limites qui font que ça n'est pas utilisé. La première, c'est que ce sont des outils commercialisés, donc il faut les acheter avec des modèles, des business models différents, des abonnements à renouveler, etc. La deuxième limite, c'est que c'est des outils qui fonctionnent sur ce qu'on appelle des logiques d'arbres. Donc, c'est-à-dire, moi je le résume avec mes mots, hein. En gros, il y a les outils numériques, il n'y a que deux fonctions. Il y a faire défiler ou valider, que ce soit avec les yeux, clignement d'œil, du tactile, enfin voilà. Il n'y a que deux fonctions. Et donc, résultat, l'outil d'aide à la communication, il est construit dans une logique d'art. On va d'abord choisir le thème dont on veut parler. Ensuite, il nous propose dans ce thème-là, si on cherche un objet ou une personne. Ensuite, un verbe, etc. Et donc, l'outil, il est paramétré et il ne permet pas d'expression spontanée de la personne. Il ne lui permet souvent qu'une expression fonctionnelle. On va le paramétrer pour accélérer son expression sur des besoins liés à l'hygiène, l'alimentation, le confort, etc. Mais ce ne sont pas des outils qui vont permettre à un être humain de pouvoir s'exprimer spontanément, partager des idées, des émotions, et donc il y a un impact en effet sur la santé mentale, hein, de voir un champ de communication qui est extrêmement étriqué, et ces outils reposant sur ces technologies-là apportent quelque chose, hein, je ne le nie pas, mais les professionnels des foyers utilisent des outils non numériques, hein, des pictos, des classeurs, des choses qui sont imprimées. L'idée, ce n'était pas juste de digitaliser un truc qu'ils font déjà avec du papier. Notre conviction, c'était que l'intelligence artificielle, qui a beaucoup de travers, mais qui peut aussi être utilisée au service de l'intérêt général, a le potentiel pour qu'on invente une solution qui rende cette expression spontanée possible.
Alors, je crois qu'il y avait aussi un élément par rapport au mode actuel, c'est le fait qu'il est très éprouvant physiquement.
Alors, effectivement, les personnes accompagnées, leur déficit de patients, donc déjà c'est énergivore et c'est extrêmement épuisant. De ne pas pouvoir communiquer, d'avoir beaucoup de difficultés à communiquer, de bégayer, c'est un coût énergivore, un coût énergétique dont les personnes sont fatiguées, beaucoup plus fatiguées et fatigables. Et variable, c'est que depuis leur jeunesse, c'est un handicap périnatal en fait. Nous accompagnons les personnes en situation de handicap moteur. Le handicap s'est fait en général, ce sont des anoxies, c'est-à-dire que le cerveau est privé d'oxygène pendant l'accouchement, avant l'accouchement ou juste après l'accouchement. Voilà. Donc ça engendre des lésions motrices, cognitives et ou cognitives et ou alimentation, etc. Donc ces personnes sont nées avec un handicap. Bien souvent ont été confrontées vraiment à des barrières, des gens qui ne comprenaient pas, des gens qui abandonnaient la relation parce qu'on ne comprend pas ce que souhaite la personne. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes accompagnées qui sont fermées à ce genre de communication parce que non comprises, parce que très coûteux en énergie. Donc ils préfèrent ne pas communiquer et ne pas exprimer leurs émotions. Donc nous, cet outil, en fait, ce projet, ça va aussi simplifier la communication de la personne, tout en la respectant et en respectant ses choix de pouvoir s'exprimer ou pas. Voilà, parce que nous, en tant qu'être humain, on peut exprimer nos sentiments, nos émotions, mais aussi on peut les garder et les cacher. Donc il faut interface aussi, un sentiment, un paramètre, on va dire, barrière, s'exprimer. Voilà.
Du coup, le projet Prendre la parole, il a une approche un peu, tu en parlais, qui va mobiliser l'intelligence artificielle. Alors, du coup, qui nous présente l'approche, la philosophie de ce projet ? Sébastien.
Je rajouterais, peut-être en continuité, vu que tu as parlé de deux contraintes, je dirais que la troisième, c'est par rapport aux outils actuels, c'est que ces outils forcent un petit peu les résidents à s'adapter à l'outil. À s'adapter à leur fonction, ils doivent se former à l'utilisation de ces outils. Et ce qu'on veut dans le projet Prendre la parole par l'utilisation de l'IA, c'est inverser un petit peu ce processus-là et que ce soit le système qui s'adapte à la personne, donc qui s'adapte à la communication actuelle des résidents, des personnes qui utiliseront cet outil par la suite. Donc c'est ça un petit peu la philosophie, c'est de créer d'utiliser une intelligence artificielle pour s'adapter à la personne.
Du coup, c'est la dimension apprentissage de l'intelligence artificielle qui va être intéressante là-dedans. C'est-à-dire que c'est plutôt l'outil qui va apprendre du fonctionnement de la personne plutôt que l'inverse, effectivement.
Et donc, dans la construction du projet, nous, quand on est arrivé avec l'Estia en tant que facteur humain, donc ergonome, ce qu'on voulait, c'était recentrer le projet sur les utilisateurs tests qui se sont proposés dans la démarche. Donc, on a trois sujets testeurs qui sont prépondérants dans cette démarche construction de l'IA et du système, et l'objectif c'était d'identifier leurs besoins, de comprendre leur quotidien. C'est ce qu'on est allé voir avec eux et auprès des professionnels de santé. C'est de là qu'on a construit leurs besoins et les spécifications de conception qui ont été transmises aux développeurs qui ne sont pas là aujourd'hui, Georges et Julien, et donc qui sont là eux pour construire ce système IA, donc basé sur l'IA, et qui développeront ce système qui s'adaptera dans la conception du projet, c'est de bien centrer sur nous.
Peut-être pour raconter l'étape où la connexion s'est faite avec l'Estia, nous, donc on a avancé autant qu'on le pouvait avec les foyers de Souston. Et puis, il se trouve que sur le territoire, nous, on est vraiment sur une logique d'agir sur le territoire, pour le territoire et avec le territoire. On a la chance d'avoir l'Estia, une école d'ingénieurs, avec des enseignants-chercheurs spécialisés dans l'IA, avec différents domaines, interaction en machine, informatique affective, etc. Donc il y a des publications scientifiques qui viennent de cette école qui est à 40 minutes de chez nous. Et donc on s'est rapproché de ces équipes de recherche parce qu'il y avait un intérêt aussi pour eux à ne pas faire des publications et de la recherche un peu in vitro et être vraiment sur ce qu'on appelle la recherche in vivo, et donc il y a un intérêt à la fois scientifique et de méthode, il y a un besoin, il y a un intérêt pour la démarche et faire une preuve de concept sur le fait qu'on est capable de faire ensemble. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connecté, d'abord avec un enseignant-chercheur. Ensuite, bah, les chercheurs y cherchent. Il fallait aussi des ingénieurs qui développent, donc qui ont rejoint l'équipe. Et puis, il y a ce que Émilie vient de dire, deux ergonomes qui ont ensuite embarqué dans le projet, parce que l'ambition, justement, c'est, comme l'a dit Sébastien, d'avoir une solution qui s'adapte à la personne et non pas de partir bien tête sur du développement. Où en fait l'outil serait abandonné au bout de 3 semaines parce que trop de contraintes pour l'utilisateur.
Oui. Juste pour préciser un petit peu les paroles d'Emily, oui, les résidents testeurs sont volontaires hein, donc, et participent grandement au projet. Et une des notions essentielles aussi de notre projet et de notre façon de voir les choses, c'est on parle beaucoup de. Si on revient sur le cadre légal, d'expression et de participation des usagers, ou des personnes accompagnées, ou des patients. Voilà, on privilégie beaucoup cette notion maintenant. Et l'intérêt, le point clé, à mon avis, un petit peu de ce projet, pas un petit peu d'ailleurs, fondamentalement, c'est en fait qu'on associe les personnes accompagnées à ce projet, on les écoute, ils s'expriment, ils participent, et je trouve que ça prend tout son sens dans ce genre de démarche. Et puis voilà.
Merci. Alors, du coup, moi, je voulais qu'on revienne, effectivement, parce qu'on en a parlé un peu, l'école d'ingénieurs, dans l'imaginaire collectif, en tout cas dans le mien, et dans notre territoire, c'était beaucoup l'aéronautique. Hein, voilà, beaucoup d'entreprises qui font de l'aéronautique, et c'est quand même un peu surprenant. Voilà. Dans le temps préparatoire, on avait un peu échangé sur cette notion-là, justement, qu'il y avait aussi une volonté claire, exprimée, de voilà, sortir peut-être de ça. Peut-être bien d'y revenir.
Tu comptes arriver aussi sur Mais pour présenter brièvement Alestia, donc c'est une école d'ingénieurs qui a été fondée en 1985, qui se situe à Bidart. On accueille à peu près 1000 étudiants par an. On a différents cursus, donc il y a des bachelors, une prépa intégrée, l'école d'ingénieurs, mais on a aussi des masters spécialisés, dont un master, le master VR, qui est spécialisé en IA et Big Data, et l'utilisation de l'IA, enfin des cas applicatifs de l'IA. Et aussi un master avec l'Université de Nice, en partenariat avec l'Université de Nice sur le GAI et Big Data également. Et on forme des ingénieurs qui sont généralistes. On n'est pas que dans l'aéronautique. Donc on est assez généraliste. Récemment, on a été labellisé, on a eu le label DDRS en 2024. Et on va de plus en plus sur les projets DDRS et développement durable et responsabilité sociétale. On va de plus en plus sur ces projets de responsabilité sociétale et environnementale avec Estiatech, là où on travaille avec Emini. Donc on est une plateforme où on développe des projets avec aussi les plateformes de l'Estia, donc, que ce soit des plateformes sur la fabrication additive ou le Data Lab qui est plutôt sur la partie IA. On développe des projets plutôt d'ingénierie industrielle, mais aussi tout ce qui touche avec la responsabilité sociétale et environnementale. Donc on essaie de diversifier et on travaille avec des groupes industriels, mais aussi avec des associations, avec des PME. Et c'est pour ça qu'on a répondu quand Clem nous a sollicité.
Je voulais qu'on... Parce que c'est bien, on l'a dit en intro. C'est un usage positif de l'intelligence artificielle là en l'occurrence, mais c'est aussi une vision de l'ingénierie qui sert aussi on va dire l'humain.
Et pas qu'une dimension industrielle. Je veux bien qu'on clarifie le rôle de. Ça va, on m'entend, je sais pas. Pour la captation de son, je parle très fort. Le rôle de l'ergonome, justement, au sein d'une école d'ingénieurs, et comment exactement quelle est votre mission?
Alors, nous, les ergonomes, alors à chaque fois, on nous appelle ergothérapeute, ergo...
J'ai commis l'erreur juste avant qu'on commence.
On ne sait pas trop ce que fait l'ergonome. Nous, on se place en tant que spécialiste du facteur humain, et finalement, le facteur humain, on en retrouve partout, parce que de l'humain, il y en a partout, même dans le numérique. Il y a toujours quelqu'un derrière l'interface. Et donc, on a, au sein de notre pôle, trois agronomes. Moi, personnellement, on a un peu toutes nos spécialités. On a des facteurs humains organisationnels. Donc on se place dans l'industriel sur l'amélioration de l'implémentation d'une solution et le gap de compétences, reformer les gens après l'implémentation d'une solution. Sur les interfaces et leur utilisabilité, sur tout ce qui va être interaction humain-machine, comme on disait, et sur prendre la parole, comme sur d'autres projets, on se situe souvent sur l'analyse des besoins et comment on va venir recueillir le besoin de la personne, parce que souvent on monte des projets et d'un coup on se dit mais il y avait des gens qui travaillaient derrière cette machine, et qu'est-ce qu'on en fait et comment on va faire en sorte que ce projet s'adapte aux personnes qui sont là et qui vont continuer de travailler avec le système. Donc les ergonomes, on se place sur tous les projets pratiquement qui nous passent dans les mains au sein de Destia. Et on se place aussi, on essaye sur un peu former, en tout cas sensibiliser nos ingénieurs à l'ergonomie et aux facteurs humains.
J'ajouterais que sur tous les projets où on travaille, on est là pour comprendre les besoins des utilisateurs, des futurs utilisateurs, et essayer de les transformer en recommandations, en spécifications pour le développement. Et ensuite, on travaille aussi, on a une grande phase de test utilisateur où on va, avec les utilisateurs, voir si le système correspond à leurs besoins. Et pour tout ça, pour faire en sorte que le système, lorsqu'il est finalisé ou lorsqu'il est sur le marché, il correspond bien aux besoins identifiés au début qu'on a dit.
Si je faisais une tentative de comparaison audacieuse, je dirais que vous êtes l'interface humain-ingénieur. Ok. Du coup, je veux bien que quelqu'un essaie de nous... c'était un peu la question mystère, elle n'est pas dans le listing qu'on a vu tout à l'heure, mais je veux bien que quelqu'un essaie de nous expliquer, donc du coup, concrètement, le dispositif sur lequel vous travaillez, à quoi ça ressemble et à quel stade on en est. Alors voilà, est-ce que demain toutes les personnes peuvent en bénéficier voilà. Donc qui je savais que ce serait clair.
Je commence, je laisse l'équipage compléter. Donc aujourd'hui, il ne ressemble pas à grand chose puisque c'est un projet de recherche et développement. Donc on est en plein développement. Mais l'ambition, c'est d'avoir un dispositif embarqué sur le fauteuil de la personne qui est deux versants, un retour écran vers l'utilisateur et un retour écran vers l'interlocuteur, qui va capter des sons et des images, ce peut être des expressions faciales, des gestes, des postures. Et on a du coup un algorithme qui est capable de comprendre et donc d'interpréter ce que la personne exprime pour le restituer sur l'écran ou avec un haut-parleur à l'interlocuteur. La restitution, ça va dépendre, techniquement on sait tout faire, ça va dépendre des choix de l'utilisateur. Ce peut être un prompt, un texte qui s'écrit en même temps que la personne parle. Ce peut être un texte qui apparaît une fois que la personne a fini de parler. Donc, en fait, on a plein de variables paramétrables qui vont dépendre vraiment de l'usage et de la pratique des utilisateurs, des utilisatrices. Pour vous donner une illustration du travail que Émilie et Sébastien ont fait, si on se dit juste ça, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on va développer, etc. Et on se dit, on va mettre tel son, on va lui faire valider le message, ceci, cela. Mais en fait, où on va développer avec des gestes, avec des mimiques, en fait, regardons déjà comment ces personnes s'expriment. Donc, Émilie et Sébastien ont fait tout un travail d'observation et d'analyse de comment la personne aujourd'hui s'exprime, comment elle s'est construite depuis sa naissance pour s'exprimer. On en a qui ont des techniques où la moitié du temps, ils vont le passer à s'assurer que l'interlocuteur a bien compris. Donc ils font des expressions très courtes et qui sont sur ces temps de validation. On en a d'autres, c'est des flots continus de parole. On en a qui vont utiliser un peu des gestes pour désigner. On ne va pas développer la même chose, on ne va pas proposer la même chose à quelqu'un qui ne supporte pas d'être coupé ça va plutôt être un texte en continu, et surtout pas une voix par-dessus. Ça ne va pas être la même chose pour une personne qui, au contraire, veut être sûre qu'on ne réinterprète pas ce qu'elle dit et veut valider mot à mot tous les messages qu'elle va dire. Donc, il y a un travail, une expertise techno, mais ce n'est pas que du code en fait. C'est une aventure humaine où il faut en permanence qu'on remette cette méthode que Émilie et Sébastien apporte et que l'équipe des foyers apporte aussi parce que ce ne sont pas des ergonomes mais des ergothérapeutes et qui du coup ont aussi cette approche centrée utilisateur. Mais voilà, pour vous donner quelques illustrations. Donc aujourd'hui le projet, toute cette phase de captation et d'interprétation de comment chacun s'exprime, quelles sont les techniques d'expression. On a eu beaucoup d'échanges aussi d'ordre éthique. Hein. L'un de nos trois testeurs nous a dit « Moi, en fait, je ne suis pas sûre d'être un bon candidat pour le projet parce que moi, j'ai 60 ans et depuis que je suis née, je suis entravée dans ma communication. Donc, si demain, on me donne la communication, je ne sais même pas si je vais avoir envie de m'en saisir. » Donc, on a aussi, nous, on arrive hein, avec nos savoir-faire, nos volontés, nos utopies. On a aussi des débats d'ordre éthique sur qu'est-ce que tu as envie de dire, comment, etc. Donc, on a fait tout ce travail-là. Les résultats sont assez variés et on a défini, du coup, des spécifications qui sont en cours, j'allais dire, de développement. Un socle minimum qui serait transverse pour toutes les personnes. Et les premiers, ensuite l'idée c'est d'avoir la partie apprenante, donc sur la base de ce développement. Là on travaille le moteur, pas la carrosserie, c'est-à-dire pas la taille de l'écran, est-ce qu'il est waterproof, machin. On travaille vraiment la partie algorithme, le moteur, ce qu'il y a sous le capot. Donc là on en est à la phase où on va commencer la partie apprentissage et interaction et entraînement individualisé pour ensuite, on se dit à l'automne, commencer à travailler sur les sujets plus d'interface. Et là aussi, nous on est arrivé avec nos représentations à se dire il faut miniaturiser la chose, il faut surtout pas stigmatiser. Bah, on en a qui, au contraire, sont hyper contentes d'être parties au projet et qui veulent un truc flamboyant, qui se voit vachement sur le fauteuil. Donc, voilà. Mais ça va être le cas d'une personne. Donc, le projet, il est aussi hyper intéressant sur ce qu'on appelle, nous, des approches Living Lab. C'est de l'innovation participative où l'utilisateur final est au cœur du process, il est co-designer. Et on apprend toutes et tous de la démarche. Donc voilà où on en est. Et peut-être je termine juste sur un mot pour dire on ne sait pas si ça va réussir. C'est un projet de recherche et de développement. Moi, je pense que oui. Hein. Mais on ne sait pas si ça va réussir. On est en train de mener une preuve de concept sur quelque chose qui n'existe pas déjà. Souvent, vous connaissez l'adage, c'est peu importe la destination, ce qui compte, c'est le chemin et la compagnie. Mais c'est un peu ça aussi pour notre histoire. C'est-à-dire, on ne sait pas où on va atterrir aujourd'hui. Donc, je peux vous dire un peu à quoi ça ressemble. Ce que je sais, moi, par contre, c'est qu'au-delà de faire une preuve de concept sur cette solution-là, on est en train aussi de faire une preuve de concept sur la façon qu'on a de travailler. Nous, on est un Fab Lab. On travaille avec des makers qui viennent nous trouver parce qu'ils veulent des machines. Voilà. Chez Cédric, c'est des professionnels qui ont des carrières et des vocations dans le champ médico-social. À l'Estia, ce sont des ingénieurs, des chercheurs, des ergonomes. On est en train, me semble-t-il, de faire aussi une preuve de concept qu'on est capable d'avoir sur le territoire, une alliance, moi que j'aime à appeler d'intérêt général, où en fait on est ensemble sur le territoire et si on se réunit, et ben on est capable de créer de la valeur.
Moi, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a vraiment un retour et un partage d'expériences et de compétences entre différents métiers qui, à la base, n'ont pas vocation à se rencontrer. Quoi. Et donc ça donne du sens, c'est que ben, on apprend les uns des autres. Donc, en fait, je sais que Émilie, Sébastien, ils sont maintenant au point au niveau vocal et sémantique handicap, et Clem c'est pareil, mais de l'autre côté, moi j'apprends de l'intelligence artificielle, moi je suis ergothérapeute de formation, voilà, mais je ne connais pas du tout l'intelligence artificielle, à part les journalistes. Mais là, ça commence à prendre du sens pour tout le monde, et je trouve ça super intéressant, ce partenariat et ce partage d'expériences et de compétences.
Alors du coup, je laisse le micro, parce que la question suivante, c'est de se dire, bah, voilà, comment ça se passe justement, côté expérimentation sur le terrain, le retour des trois personnes qui participent, qui co-designent l'expérimentation.
Les co-designers donc sont volontaires, sont vraiment très motivés, hein, parce que ça va d'un résident qui a 25 ans, un résident qui a 70 ans, donc les trois testeurs, hein, et une autre qui a 40-50 ans. Donc ils sont très motivés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet très très long, et on va dire que ce genre de personnes-là sont dans l'immédiateté, en fait. Ils sont dans l'immédiateté, ils veulent des résultats rapidement. Or, cette démarche, elle impose qu'il faut des études, il faut de la recherche, du développement, des essais, des expérimentations, des sous. Donc voilà. Mais ils sont très très motivés. L'idée, c'est de l'ouvrir à d'autres résidents qui ont beaucoup plus de difficultés, c'est-à-dire qu'eux, ils ont, on va dire, un langage verbal, une communication verbale limitée, difficile, mais ils ont accès à quelques mots. Certains n'ont même pas accès à la communication verbale. Donc on va essayer de, comme ils disaient, établir le socle, le capot, le moteur, et là, on va introduire plus de difficultés derrière et des spécifications d'autres résidents. Donc là, on parlait tout à l'heure de participation des résidents. Donc, nos ergonomes sont sur le terrain, là, ils sont vraiment in situ et avec les résidents. Et ils font là, on est au stade où demain ils viennent et ils voient les trois résidents testeurs pour faire leur recueil d'observation.
Oui, demain, on a l'étape au réentraînement de l'intelligence artificielle. Donc on utilise une intelligence artificielle qui comprend ce qu'on dit, qui comprend le commun des mortels, mais qui ne comprend pas les personnes qui ont des spécificités comme les trois résidents. Et donc il faut le réentraîner. Donc comment on va le réentraîner? On va les enregistrer sur certaines phrases qui comportent l'ensemble des phonèmes de la langue française et de la langue anglaise pour Greg, parce qu'on a un anglophone. Et donc, ce réentraînement, en fait, on va le faire répéter ces phrases 5 fois, 10 fois. On va l'entrer dans le modèle. Et ce modèle-là va réapprendre d'eux. Et suite à ça, on va encore refaire des tests jusqu'à ce que le modèle arrive à transcrire leur communication.
Comme le disait Cédric, c'est des gens qui sont dans l'immédiateté. Je trouve que c'est un peu ce qu'on a dû mettre en place, c'est de la pédagogie, un peu de devoir les impliquer, exprimer où on en est dans le projet, bien montrer que ce qu'on leur montre, c'est pas le produit final, ne pas montrer de faux espoirs, en tout cas, puisqu'on en est dans en tant que recherche et développement. Et donc c'est toute la pédagogie aussi de leur montrer les spécifications qu'on fait, valider avec eux ce qu'on fait, et intégrer aussi les professionnels de santé qui sont très présents.
Alors du coup, on comprend qu'il y a un enjeu fort sur l'enrichissement du modèle de langage.
De la logique du projet de fabriquer des communs. On ne veut pas fabriquer quelque chose qui sera breveté et commercialisé pour ne pas tomber dans l'écueil que j'évoquais sur les outils existants. On veut qu'ils puissent être enrichis par le plus grand nombre. Et donc, c'est un projet d'innovation participative. interactive, mais aussi ouverte, puisque on cherche à ce qu'un maximum de personnes puissent contribuer au projet, et ça me permet de faire le lien. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir.
Mais parfaitement. J'aurais dû animer cette table ronde, Claire.
Donc on a, en parallèle du projet, installé un démonstrateur de médiation scientifique à la Cité des sciences et de l'industrie, à la Villette, à Paris. Donc qui permet depuis plus d'un an, un an à peu près, aux visiteurs du musée, non pas de tester et entraîner le team, mais de tester et entraîner certaines fonctionnalités. Donc vous aurez l'occasion, puisque, alors il n'y a pas toute la cabine qui va autour, on a juste amené l'ordi, mais sur la table là-bas, dans le coin au fond, il y a un petit scénario d'usage où vous pouvez interagir avec une IA sans utiliser la parole et avoir une petite expérience conversationnelle qui est basée essentiellement sur des gestes et des expressions faciales. Et donc ça, on l'a développé et on l'a installé à la Cité des sciences et de l'industrie. Et c'était un peu notre antichambre, c'est-à-dire chaque fois qu'on avait une nouvelle modalité avant de se dire ça vaut le coup de la tester avec des personnes en situation de handicap moteur, on la mettait là-dessus, des milliers de passages, et donc on se disait ben ça, ça vaut le coup d'investir ou pas investir. Et on est en train de considérer de rapatrier ce démonstrateur dans les Landes Pays Basques pour aussi le faire tourner dans des collèges, des EHPAD, enfin différents lieux accueillant du public, pour que chaque visiteur participe au test. Pas l'entraînement du modèle, parce que le modèle il est vraiment entraîné sur les utilisateurs finaux, mais nous permettre de tester des fonctionnalités. Donc on est vraiment sur cette logique d'innovation ouverte. On veut que le plus grand nombre de personnes soit à sa modeste part contributeur de l'aventure et de fabriquer tous ensemble des communs qui ont un service réel pour des personnes en situation de handicap.
Donc, ce qui veut dire que pour vous tous qui êtes là aujourd'hui, vous pouvez donc contribuer au projet avec l'ordinateur qui est posé là-bas au coin de la table, qui va être là jusqu'à demain, du coup.
Oui, faut qu'on récupère un numéro de téléphone de la personne.
Une fois qu'on a 2-3 problèmes logistiques réglés, il devrait être là normalement, mais pour que voilà, vous puissiez aussi contribuer et mobiliser avec gestes et regards, mais sans parole, le modèle. Ok. Du coup, je te laisse la parole, parce que maintenant on s'intéresse, même si tu l'as un peu évoqué, moi ce qui me paraissait très important, on avait déjà évoqué par le passé dans les numériques en commun précédents, le rôle des tiers-lieux, justement, qui dans leur nom le disent effectivement, on va se retrouver à un endroit là où plusieurs typologies de personnes sur un territoire, plusieurs énergies vont pouvoir se croiser, et ça je pense c'est important, c'est quelque chose pour lequel tu milites beaucoup. Donc là, je t'offre une tribune pour expliquer en quoi, justement, en quoi ce type de projet-là, il est possible aussi parce qu'il y a des tiers-lieux, aussi parce que c'est un espace de rencontre.
Oui, donc nous, on est un tiers-lieu, plus précisément dans la grande famille des tiers-lieux InfabLab. Donc les tiers-lieux, je ne connais pas trop l'auditoire, mais des lieux alternatifs qui ne sont ni la maison ni le travail tels qu'on les connaît habituellement, et des lieux où on réinvente des façons de faire et d'être ensemble. Donc dans la grande famille des tiers-lieux, il peut y avoir des terres agricoles partagées, il peut y avoir des espaces de coworking, et il y a des tiers-lieux dits de fabrication que sont les Fab Labs. Nous, notre conviction à Souston, c'est que tout le monde devrait pouvoir créer et innover. Quand on regarde aujourd'hui quelques chiffres clés, si on est issu d'une famille aisée, on a 10 fois plus de chances de devenir inventeur. Quand on regarde les brevets qui ont été déposés en France au cours des 2 dernières années, 86% l'ont été par des hommes. Donc on a énormément à faire pour démocratiser l'accès à l'innovation et à la fabrication. Et nous, c'est pour ça qu'on s'est constitué en Fab Lab. Donc c'est un espace avec des faire savoir-être, des compétences humaines. Marine, qui est médiatrice numérique, femme manageuse, mais aussi des machines. Et le but, voilà, c'est sur le territoire participer à cette grande aventure de la médiation numérique et de la démocratisation de l'innovation et de la création. Sauf, c'est que si on fait juste ça, on ouvre des locaux, on met des gens chouettes et des machines chouettes, ben, c'est ceux qui sont déjà dans la création et la fabrication et l'innovation qui viennent chez nous. C'est ceux qui vont chercher sur un moteur de recherche, imprimante 3D sous ton, Fab Lab, machin. Eux, ils viennent. Les makers déjà convertis, ils viennent. Ils nous trouvent. Notre enjeu, c'est pas juste mettre à disposition de ceux qui se sentent déjà aptes et capables, c'est d'aller vers. Et donc, on est de plus en plus nous-mêmes dans une logique de faire tiers lieux hors les murs. Moi, je ne l'ai pas dit en intro parce que j'essaie de chasser ça de mon identité, mais je viens du monde de la santé. J'étais directrice d'hôpital avant. Et donc, j'ai fait mon virage professionnel, j'ai plongé dans le monde des tiers-lieux. Et je me suis dit, mais en fait, l'hôpital, comme des structures médico-sociales, c'est des structures qui ont une culture et une organisation très hiérarchique, très procédurée. On n'en fera jamais des tiers-lieux en tant que tel, pour plein de raisons, de principes de précaution, de qualité, c'est pas tout peut être autorisé, etc. On n'en fera jamais des tiers-lieux. Par contre, moi j'ai essayé de changer de l'intérieur les hôpitaux, les organisations de santé, et maintenant que je suis en tiers-lieux, je me dis, mais en fait, au lieu de changer de l'intérieur, il suffit de réinventer à côté et de faire avec. Et donc là, depuis l'établi, là où on est, notre façon d'agir aujourd'hui, c'est d'aller dans ces lieux plus traditionnels, comme peut l'être un EHPAD, un foyer pour personnes en situation de handicap, un hôpital, une école, une médiathèque, des structures qui existent et qui ont leur code, et c'est d'aller faire tiers-lieux chez eux. Et c'est tout ça aussi l'idée du projet Prendre la parole. Et les résultats qu'on a, c'est pas juste avoir un outil de communication qui sera fonctionnel. Le résultat qu'on a, c'est que on a des résidents des foyers qui reviennent et qui ne seraient jamais venus au Fab Lab et qui viennent tout seuls, sans les accompagnants, pour des choses qui n'ont rien à voir avec leur handicap. Utiliser notre imprimante textile pour faire un coussin à l'effigie de leur chat. Au début, nous, on commence à aller vers avec des projets qui sont centrés sur un besoin qui est leur handicap et tout ça. Mais le but, c'est qu'ils se réapproprient ensuite en retour le lieu, le Fab Lab, dans lequel ils ne seraient jamais venus d'eux-mêmes. Et donc, pour moi, c'est un indicateur d'impact hyper positif du projet Prendre la parole. C'est pas juste la communication, c'est faire tiers-lieu avec les structures de notre territoire. Et donc là, il y a des foyers, il y a des STIA, le plus grand nombre qu'on peut être.
Merci. J'imagine que du côté du foyer aussi, le Fab Lab
comme ça, c'est une bonne nouvelle aussi.
Oui, en termes d'inclusion, c'est un très bon indicateur. Hein. C'est gagnant-gagnant, en fait. La relation, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde gagne. La personne accompagnée gagne parce qu'elle a un projet et elle arrive au bout de son projet. Il y a des fois dans sa vie, ses projets n'ont jamais abouti. Là, c'est vraiment un aboutissement. Donc, c'est quand même très gratifiant pour la personne aussi. Et nous, on apprend aussi. C'est vrai que on parle d'ouverture de l'établissement à l'environnement et sur l'environnement. Ça, on est en plein dedans avec ce genre de travail. C'est aller avec des gens, on crée de la mixité, il y a des bénévoles, donc il y a une mixité personnes en situation de handicap, citoyens normal, entre guillemets, on va dire. Ça crée du lien social, on apprend l'un de l'autre, on connaît les difficultés, on apprend plein de choses. Quoi. Et puis c'est aussi ouvrir nos murs, nos établissements, aux personnes extérieures, aux enfants. Et ça, je trouve que par le passé, ça n'était pas assez fait. Ce n'était pas dans les mentalités, dans les politiques. Mais la tendance actuelle est à ça. On n'est pas là. C'est comme ça.
Donc, vous disiez, on a des personnes en situation de handicap qui sont revenues. On a aussi des professionnels qui travaillent dans les foyers qui sont revenus à titre personnel. Et on a organisé plein d'autres formats pour justement, on a une formule qu'on appelle le mailstorming, où on fait venir nos makers et des personnes en situation de handicap moteur qui ont un besoin. On fait un peu comme Tinder, on fait des matchs. Et ensemble, ils vont co-designer une solution pour leur faciliter la vie. Et donc, on active aussi des postures de « je suis acteur, actrice de ma propre innovation ». Chez nos makers, nos makeuses, on a des gens qui n'étaient pas exposés au handicap et qui, du coup, comme tu le dis très bien, Cédric, sont sensibilisés et découvrent, apprennent de la personne. J'ai mon expertise technique, tu as l'expertise d'usage. Moi, sans toi, mon expertise technique, je fais des lampes, quoi. Et inversement, toi, sans moi, tu restes limité dans tes faits et gestes. Et donc, ensemble, ils co-designent des solutions. On a cette dynamique où nos makers nous ont dit, en fait, nous, ça donne du sens à nos savoir-faire et à nos talents. Parce que autrement, je prenais l'exemple d'une lampe, parce qu'on a un maker qui fait des abat-jours, mais quand tu fabriques un manche adapté pour un couvert de sorte à ce que Stéphane puisse s'alimenter tout seul, parce qu'il n'a pas l'amplitude pour pouvoir amener tout seul la fourchette à sa bouche, ça donne vachement plus de sens à ton talent de concepteur 3D.
Merci pour cette illustration. Il y a un point qu'on n'a pas abordé tout au long de cette présentation, c'est que ce projet il doit avoir un coût, j'imagine. On ne vit pas que dans le réseau fraîche, ça a été évoqué par
la fille et le directeur de la fille en 64.
Il y a un enjeu effectivement de financement. Moi, je veux bien que tu nous racontes aussi l'ingénierie. Alors rapidement, sans rentrer dans les détails bien évidemment, mais une petite partie de l'ingénierie que ça nécessite de pouvoir faire émerger ce genre de projet sur un territoire.
Alors, je vais commencer par dire qu'on n'a pas assez de sous. Donc, si vous connaissez des gens qui veulent nous financer, on est preneurs. Voilà. Ceci étant dit, nous aussi, l'établi, notre savoir-faire, c'est la conduite du projet, la coordination, mais c'est aussi notre connaissance de ces interstices de l'écosystème. Donc, on est allé chercher des financeurs pour mener ensemble ce projet. On est financé aujourd'hui, on a deux sources de financement principales. On a la philanthropie, donc des grandes fondations dans le champ du handicap qui justement cherchent à investir sur des projets non commerciaux, des projets d'intérêt général. La dimension open source, fabrication de commun, c'est aussi ce qui nous permet d'aller capter de l'argent de grandes fondations dans le champ du handicap. Et on a la puissance publique qui nous accompagne, la région Nouvelle-Aquitaine, pour les cités. On a eu aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, la Cité des sciences et de l'industrie, qui cherche dans leur fonction, on va dire, de centre de culture scientifique, technique et industrielle, à incarner des exemples sur l'IA. Donc on a été lauréat d'un appel à projet innovant là-bas, donc ce qui nous a permis aussi d'avoir un peu de financement. Aujourd'hui, on commence à aller vers les départements parce qu'il y a le champ de compétences et on continue à chercher à compléter le plan de financement avec d'autres acteurs de la philanthropie. Alors, au début, on avait des besoins limités. Mais en fait, au fur et à mesure de l'aventure, l'équipage s'élargit. Au début, c'était, je caricature, mais Cédric et moi. Puis il y a la psychologue de l'établissement, il y a l'ergonome, il y a les agents de soins. On avait un enseignant-chercheur. Ensuite, on a eu un premier développeur, un deuxième, deux ergonomes. Parce qu'en fait, le projet il est génial, donc tout le monde a envie de bosser dessus. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on fait beaucoup en autofinancement et en bénévolat. Mais une bonne partie du travail, c'est d'aller chercher des financements. Et là où il y a des financements pour ce genre de projet à la marge, on n'est pas sur un business model traditionnel où on va faire un emprunt, faire du développement et après se refinancer sur de la commercialisation. Nous, le projet, il s'arrêtera quand on aura réussi, on le livre dans une logique de commun, gratuitement à la communauté, donc on n'est pas du tout sur le même modèle. Donc il faut aller chercher et convaincre. Donc on travaille aussi sur le champ de la communication, on a été en discussion à un moment pour éventuellement avoir un film documentaire qui accompagnait l'aventure. Donc voilà, aujourd'hui, si vous pensez à des entreprises ou autres qui veulent faire bon usage de leur générosité, on est en plein dans le travail pour la suite du plan de financement. Voilà.
Merci beaucoup. On peut vous proposer, déjà merci à tous d'avoir répondu à ces questions, d'avoir présenté le projet. On peut se donner du coup quelques minutes si la salle a des questions. Carole a un micro qui ne marche pas très bien, mais comme ça vous êtes prévenus. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas.
Chaque modèle sera pour une personne. Et ensuite, donc pour l'instant, on est juste à l'entraînement sur des phrases dont on a déjà le sens. Après, on passera à l'étape où on aura des communications non contrôlées et où là, on devra par la suite vérifier avec l'utilisateur le sens de sa phrase. Donc en fait, on va le faire valider lui-même ce qu'il a voulu dire. Non, avec lui en entretien.
Là, c'est la phase entraînement, c'est-à-dire donc il y a trois étapes. Il y a d'abord, tu lis des phrases que la machine s'attend à ce que tu dises cette phrase et elle va capter comment tu l'as dit. Donc c'est voilà, ça c'est la première étape de l'entraînement. Après, comme le dit Sébastien, tu t'exprimes spontanément. Mais il n'y a pas de traduction automatique, tu dois valider. La machine dit je crois que tu as dit ça, et tu peux changer les mots. Voilà, ça c'est la deuxième étape de l'entraînement. Après, peut-être je me permets de rebondir sur votre question. S'il n'existe pas de solution comme ça dans le commerce, c'est parce que quand on commercialise quelque chose, quand les gens achètent, ils ont envie de sortir de l'emballage, d'appuyer sur un bouton et que ça marche tout de suite. Nous, c'est pas ça la promesse qu'on fait. La promesse qu'on fait, c'est que là, la preuve de concept qu'on fait avec Greg, Sean et Léa, nos trois utilisateurs co-designers, c'est de montrer qu'on est capable de développer, moyennant un peu d'énergie, de temps, un outil qui soit capable de les comprendre chacun individuellement. Donc l'outil sera généralisable, moyennant, avec chaque nouvel utilisateur, une phase d'entraînement. Puisque c'est ça l'intérêt de l'outil, c'est qu'il s'adapte à la personne. Donc, ce qu'on aura développé avec Sean, Greg et Béa, c'est pas un truc qui après est mis sous blister et qui marche avec n'importe qui. C'est une preuve de concept que en un mois de temps d'interaction, où je vais d'abord lire des phrases, ensuite répéter, etc. Et ben après, j'aurai un outil qui me comprendra réellement et que je pourrai utiliser dans mon quotidien. Donc, c'est important aussi, peut-être il y avait ça derrière votre question, de se dire, comme il est entraîné sur chaque personne, il y aura pour tout nouvel utilisateur un temps d'entraînement obligatoire, mais nous on considère que le jeu en vaut la chandelle et on essaie de faire cette preuve de concept là.
Excusez-moi, juste, je voudrais compléter ma question. Vous avez dit que certaines personnes ont du mal à s'exprimer, n'arrivent pas à parler en fait. Comment vous savez ce qu'elles veulent dire en fait?
Alors pour ces autres, là, Greg, Sean et Béa, eux, au début on voulait développer des gestes. Mais on s'est rendu compte que quand même on ne comprend pas ce qu'ils disent, ils s'expriment essentiellement par des sons. On a un deuxième chapitre du projet qui est à côté, avec des personnes qui n'ont pas du tout accès à la parole et avec qui on travaille sur de la reconnaissance d'émotions, sur les expressions faciales, des gestes qui, donc là aussi, le travail c'est de se dire comment ils se font comprendre aujourd'hui. Est-ce qu'ils désignent des choses? Est-ce que c'est. Et donc, sur la base de ça, de la même façon qu'on est capable de développer quelque chose qui reconnaît des sons, on peut développer quelque chose qui reconnaît des expressions, qui reconnaît des gestes.
Oui, juste pour compléter, nous on a le savoir-faire du terrain aussi, donc le contact et la relation avec les personnes accompagnées. Donc, on les connaît parfaitement bien. Enfin, on a l'expérience. On a envie, c'est un lieu de vie, donc on vit avec eux, ils sont là pour certains depuis 30 ans. Donc, d'où l'intérêt aussi du travail, on a un groupe de travail de professionnels qui est intégré donc, au groupe projet, et on échange aussi avec eux sur ça, ils sont impliqués, donc c'est eux qui sont quand même sur le terrain. Donc on a notre savoir-faire, notre savoir-être, et surtout, nous on a l'habitude dans notre secteur, on reformule souvent les propos des résidents. Pour être sûr et valider ce qu'ils veulent dire. Enfin, on reformule tout simplement. C'est bien ça que tu as voulu dire. Est-ce que.
Comment être sûr du sens
de... Voilà, exactement. Après, c'est un travail de fourmi, effectivement, mais comme dit Clem, le jeu en vaut la chandelle.
Merci.
Moi, j'ai une question sur l'apprentissage de l'IA. Je sais que pour l'IA générative, l'IA en auto-apprentissage, il faut l'entraîner sur des milliers de modèles, parfois des millions de data. Là, comment est-ce que vous estimez l'entraînement de votre IA? Est-ce que ça va être sur des milliers de personnes?
Non.
Ou quelque chose de plus restreint, justement?
Alors, c'est pas moi l'ingénieur pour le projet, mais c'est pour ça qu'on reprend un modèle déjà existant. C'est que c'est un modèle qui a déjà été entraîné par des milliers de personnes, et en fait, on va le reformater, en quelque sorte, avec chaque personne, pour l'individualiser. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
Oui, parfait.
En fait, moi, ce que je pense, c'est que le modèle de base est entraîné sur les phonèmes, sur la reconnaissance de la vocalisation, donc le phonème à la base de la langue française et anglaise.
Oui.
Et donc, nous, on va juste rajouter ces phonèmes avec cette formulation des résidents dans leur bouche à eux, dans le modèle existant, et donc il va l'implémenter à son propre modèle. Et l'objectif, ce sera de l'entraîner sur les résidents pour valoriser le modèle.
Et peut-être pour compléter, c'est exactement la même chose sur la reconnaissance d'expression faciale. On a des enseignants-chercheurs qui ont participé au développement et à l'expérimentation de d'IA, qui travaillent sur du mapping, des points de repère sur le visage et qui permettent, aujourd'hui, on sait faire, la technologie existe, il y a des codes en open source, qui permettent de dire, ben là, Loïc, tu as une expression neutre. Là, Loïc, tu es content. Loïc, tu es surpris. Et ben, on prend ces mêmes modèles et on fait le mapping sur des personnes qui ont des paralysies partielles, etc. Et on va intégrer, comme le dit Émilie, les corrections pour que sur quelqu'un qui a toute sa mobilité, qui n'a pas de gestes, Cédric, ces gestes parasites, voilà, qui... Bon, je n'ai pas toute la sémantique spéciale, mais qui peuvent avoir des gestes qu'il faut neutraliser, par exemple dans la lecture, comme une personne qui bégaye, on va neutraliser s'il y a plusieurs fois la même syllabe répétée. Donc tout ça, c'est le travail d'orfèvre qui est fait à la main à partir de modèles généraux qui existent.
Juste pour vous donner un petit exemple. Pour étayer, on a, je pense, une pathologie qui est dans les troubles associés, qui est en hystérus, c'est-à-dire que la personne, le système nerveux et musculaire de la personne, elle ne le contrôle pas. Ça fait qu'on a, nous, on arrive à bien mobiliser notre œil, aller sur une cible, contrôler, eux ne l'ont pas. Donc ça, par exemple, l'intelligence artificielle et l'entraînement va repérer ça et va s'adapter, je pense, à ce dysfonctionnement et il faut le prendre en considération. Autre exemple, donc ce sont des polyhandicapés troubles moteurs, ils ont ce qu'on appelle la spasticité, c'est au niveau du muscle, c'est le tonus musculaire qui nous on ne
concernant les partenaires du projet. Je n'ai pas entendu Jérôme Coppol ou Agence régionale de santé. Est-ce que vous avez des idées?
Alors, je l'ai dit, moi je viens du monde de la santé, je viens des hôpitaux, j'ai aussi une scène d'année au ministère de la Santé. Forte de cette expérience, j'ai fait le choix délibéré de ne pas aller vers les tutelles tant qu'on est en phase exploratoire. Un, parce que ça fait peur. Deux, parce que les sous dédiés à l'innovation dans la régulation, la puissance publique, ils sont quand même orientés sur des projets qui ont quand même déjà un peu fait leur preuve de concept. Trois, parce que je pense en tant que technocrate repenti, j'ai plutôt tendance à demander pardon que la permission. Si on demande avant, on se donne toutes les raisons qu'on nous dise non, il ne faut pas faire ça. Donc il vaut mieux y aller et après dire hey, regardez ce qu'on a fait. Voilà. Ça, c'est une culture personnelle. Hein, et pour autant, moi j'en ai déjà parlé avec les collègues de l'ARS, j'ai eu l'occasion d'en parler avec les collègues du Gérontopôle, mais on n'a pas voulu se placer en demande pour le moment. Pour garder aussi toute l'agilité qu'on a là. On fait notre tambouille entre nous aussi. Hein. Voilà. Mais je pense que ce sont des partenaires. J'ai cité la région. La région, ils nous accompagnent sur les fonds tiers-lieux. Donc les fonds, vous faites un peu ce que vous voulez. Quoi. Pas les fonds hyper cadrés avec une attente. On n'est pas dans le champ de la santé. On n'est pas. Voilà. Donc moi, je pense que c'est des partenaires clés du projet à un stade où on aura suffisamment avancé et on sera suffisamment confort. Et donc sur les phases très amont, et ben c'est plutôt des acteurs comme la philanthropie qui vont prendre ce risque. Voilà. Donc je ne les ai pas écartés, mais délibérément gardés pour une phase de maturité dans laquelle on rentre très bientôt.
Est-ce qu'il y a encore des questions?
Puisque pour rechercher, c'est un peu le nerf de la guerre, bien sûr, les financements, est-ce que vous avez pensé, je ne sais pas si ça existe, un genre de temps médiatisé
Téléthon.
Alors, nous, on parle le plus possible du projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. On en parle tellement qu'on a été approchés par la FM Téléthon. Parce qu'ils voulaient savoir à quel stade on en était et si on pouvait développer quelque chose qui s'adaptait aux myopathies. On a été approchés par des grandes associations dans le champ de l'autisme qui dit détection des émotions via des expressions faciales, dit plein d'applications possibles, notamment pour des profils TSA qui sont empêchés dans l'interprétation des émotions chez eux-mêmes ou chez d'autres. Donc en fait aujourd'hui... troubles du spectre autistique. Donc on a aujourd'hui plus de gens qui viennent en disant on voudrait tels usages, c'est génial ce que vous faites, est-ce que ça pourrait s'appliquer aussi pour nous, que de gens qui aujourd'hui sont en mode c'est génial, on est capable d'attendre que vous ayez fini ce que vous faites et de vous donner de l'argent et après on en reparle. Donc oui, on parle avec la FM Téléthon. Je pense qu'on est un projet quand même ambitieux, mais somme toute relativement modeste pour partir tout seul sur un crowdfunding avec une médiatisation, etc. Je pense que quand on aura plus avancé, qu'on aura des choses très tangibles à montrer, quelque chose. Là, on est là et on vous parle. Quand on aura un démonstrateur vraiment tangible qui sera. Visible, peut-être qu'on pourra envisager d'autres sources de financement sur ce modèle-là. Oui, on a en effet, on entretient la relation média, elle est importante pour nous pour faire parler du projet. Donc là, on est en relation avec l'agence France Presse qui veut venir faire des prises de vue pour vendre un reportage. Fabriquer un reportage télé qui pourrait passer dans les journaux télévisés. Donc on, voilà, tout est question de timing, c'est-à-dire que nous, il faut qu'on dose aussi d'être suffisamment avancé, d'avoir des choses à montrer visuellement qui font suffisamment envie pour ne pas faire partir le coup trop tôt et qu'on ait grillé notre cartouche. Voilà. Donc, dans la gestion de ce projet, il y a l'enthousiasme, mais il y a aussi la gestion des sous, la gestion de la com, le timing, tout ça. Donc c'est un projet complexe, mais qui nous passionne.
Eh bien voilà, donc pas d'autres questions, merci pour les commentaires.
Ah, si,
à votre avis, quel objet sera vers quoi exactement vous voulez atteindre, quel serait le produit final? Ce serait un programme sur un ordinateur, ce serait un objet en particulier?
Ce qu'on a appris des résidents en allant le voir, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit transportable avec eux. Donc ce sont trois résidents qui sont en fauteuil roulant. Donc il faut que ce soit transportable facilement, utilisable et aussi qu'ils puissent aussi enlever s'ils n'ont pas envie d'utiliser. On partirait plus sur un... sur une forme de smartphone tablette, mais avec deux faces, une face utilisateur et une face interlocuteur.
Avec haut-parleur.
Avec haut-parleur intégré, s'ils ont envie d'utiliser cet haut-parleur ou s'ils veulent qu'une retranscription écrite, ce sera à eux de choisir ces modalités.
Et on s'interdit pas, en fait, le plus dur, c'est de développer le moteur, quoi. C'est pas de développer l'interface hardware, l'équipement. À un moment, on s'était dit, en fait, il faut que ce soit interfaçable avec le smartphone de l'utilisateur. Bon, là, on est plutôt sur, c'est un truc qui se fixe sur la coudoir du fauteuil avec deux petits écrans, un retour utilisateur et un retour à interlocuteur. On verra où ça nous mène. On sait qu'il faut que ce soit dustproof, donc résistant à la poussière, waterproof, proof tout, quoi. On sait que pour certains, il faut que ce soit hyper voyant et que, voilà, il y ait le côté tech avec des lunettes ou je sais pas quoi, que pour d'autres, au contraire, il faut que ce soit très discret. Donc cette partie-là, on ne l'a pas encore travaillée. J'ai envie de dire qu'on en sera là. Je pense qu'on aura bien avancé, bien réussi.
Non, je veux dire que ce serait plus facile d'en parler ou de le faire savoir si vous avez quelque chose à montrer, un objet, quoi.
Pour le coup, on va remercier déjà chaleureusement à tous nos intervenants pour cette très belle illustration et cette très belle entrée en matière pour vous, pour ce NEC. Merci beaucoup d'être venus. Merci pour vos échanges. Donc, vous avez le démonstrateur qui est là, donc on vous invite à venir contribuer.
Merci.